une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent nos ruelles? Territoire occupé.
Vous êtes bien sur Fréquence 7 et c'est Billets d'Afrique. Valou, qui a créé l'émission, est occupé à pouponner. C'est donc moi, Marie, qui reprends le flambeau en attendant son retour. Comme je suis loin d'être aussi savante que Valou sur la question, elle ne sera pas loin et aussi je vais chercher de l'aide auprès de spécialistes de la question, tout en m'appuyant sur des publications de l'association française spécialiste de la France-Afrique, Survie. Pour ce premier épisode de la saison 2, donc, j'ai pensé important de revenir aux fondamentaux et au départ de cette histoire, à savoir quand apparaît le terme de France-Afrique et pourquoi. L'ouvrage « L'Empire qui ne veut pas mourir » paru en 2021, puis en poche en 2023, a été co-dirigé par Thomas Borel, Amzar Boukhari Yanari, Benoît Colomba, Thomas Deltombe et Catherine Cochery. Pour nous en parler maintenant, c'est Thomas Borel, par ailleurs porte-parole de l'association Survie.
Nous, on a vraiment eu le souhait de repartir justement de la mise en place de ce qu'on appelle la France-Afrique et de chercher d'ailleurs les origines, à la fois politiques, mais même les origines du mot France-Afrique. Et d'ailleurs, par rapport à quelque chose qui est souvent dit, que ça aurait été un mot inventé à la fin des années, au milieu des années 50, par le président ivoirien de l'époque, qui s'appelait Félix Houphouët-Boigny, en fait, ce qu'on montre dans le livre, c'est que le mot, il existe depuis 1945. Et en fait, août 45, c'est au moment de la capitulation du Japon, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des réflexions qui animent l'intelligentsia française, les élites françaises, de se dire comment continuer à peser au niveau mondial. Il y a un peu cette idée de grandeur. On était un empire et donc tout est en train de bouger avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et comment est-ce qu'on va continuer à être une grande puissance. Il y a vraiment ce mythe de la grande puissance qui est vivace, quoi, qu'il faut entretenir. Et donc, il y a en fait des réflexions à ce moment-là, puisqu'on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a des troupes africaines qui sont venues combattre, qui ont contribué à libérer l'Europe du nazisme. Donc, on a ce qu'on a appelé les tirailleurs africains, sénégalais, qui reviennent au pays et qui aussi, veulent l'indépendance, quoi. Il y a vraiment des mouvements indépendantistes qui commencent à se développer. Et donc, petite panique à bord chez les élites françaises, de se dire comment on conserve l'Empire. Et toute une réflexion qui se met en place vraiment à partir de 1944-1945, donc 1944, un truc qui s'appelle la conférence de Brazzaville, où il y a vraiment ces discussions avec De Gaulle qui va là-bas sur l'avenir des colonies françaises, et jusque à la fin des années 50, en gros, de se dire comment faire en sorte de ne pas perdre l'Empire. Entre-temps, on a une guerre d'indépendance en Indochine, que la France perd, donc l'Indochine se libère. Et donc, il y a des gens comme François Mitterrand, qui deviendra bien plus tard président de la République, mais d'autres aussi, qui développent un peu des théories. Et François Mitterrand dit carrément, c'est le titre d'un bouquin, en gros, il dit de lâcher l'Asie et de garder l'Afrique, quoi. C'est vraiment... il faut recentrer l'Empire français là-dessus. Et donc, pendant toute cette période-là, il y a ce truc de dire il faut qu'on fasse des concessions sur l'Empire pour pouvoir le conserver. Et cette idée, elle est hyper importante parce qu'elle est centrale pour nous dans le livre, dans le sens où c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Mais un certain nombre de réformes, de choses qui se produisent actuellement, où on nous annonce que ça y est, c'est la fin de la France-Afrique ou quoi, sont, si on les met dans cette filiation, un peu dans cette histoire longue, on voit que c'est la même chose, c'est lâcher du lest pour conserver l'essentiel. Et il y a un président de la République, Vincent Auriol, un peu, c'est pas le nom le plus connu, mais il est président de la République de 1947 à 53. En 1952, qui dit dans une lettre, je crois, il dit il faut conserver le maximum en cédant les apparences. C'est vraiment le mantra de l'époque, quoi. C'est ce truc, on va céder des choses, mais il va falloir garder ça. François Mitterrand, qui est un jeune ministre ambitieux à l'époque, est à fond là-dessus, et tous ces gens préparent ce qui va être mis en œuvre en fait par d'autres. Puisque en 1958, on a le général de Gaulle qui revient au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, peut-être juste le rappeler, c'est un petit truc qui est un peu qui passe inaperçu dans la grande histoire française, l'histoire glorieuse de notre pays. Mais De Gaulle arrive au pouvoir en mai 1958 à la faveur d'un coup d'État, une mise sous pression des institutions de la 4e République, avec l'armée française qui menace d'intervenir. On dit que les paras sont en vol déjà pour venir sur Paris et tout, et donc vraiment les institutions capitulent et donnent le pouvoir à De Gaulle, quoi. Et De Gaulle reprend le pouvoir et on va basculer vers la 5e République qui se met en place à ce moment-là, dans les mois qui suivent. Et De Gaulle va faire ce que d'autres ont préparé avant lui. Et donc, c'est faire quoi? Alors d'abord, c'est tenter de conserver avec la communauté française, de pas donner l'indépendance pleine et entière, de créer une sorte de ce qu'on a appelé la communauté française qui a duré de 1958 à 60, où on donne un certain nombre de prérogatives à ces pays, mais qui ne sont pas des États indépendants. Et puis le projet est en fait assez vite morné, quoi. Le truc ne marche pas et très vite on va vers l'indépendance, mais une indépendance sous contrôle. L'idée, c'est puisqu'on ne peut pas empêcher la poussée indépendantiste, il faut la contrôler. On va en fait favoriser des élites qui sont favorables aux intérêts français. Mais quand je dis favoriser, c'est y compris c'est de l'élimination politique, de la mise sous pression et de l'élimination parfois physique avec de l'emprisonnement, de la répression et éventuellement de l'élimination physique pure et simple comme au Cameroun avec une guerre contre les indépendantistes pour que les personnes qui reçoivent un peu les clés du truc soient favorables à la France. Et finalement, on a donné, je sais plus si c'est Mesmer ou Debré qui dit, on a donné l'indépendance à ceux qui demandaient le moins. C'est vraiment ça. Au Gabon, on a un gars, Léon Mba, qui va devenir le premier président de la République. Il voulait pas de l'indépendance. Il voulait que le Gabon soit un département français. Il disait, on veut rester un département français, quoi. Mais j'ai oublié de le dire, en toile de fond, il y a la guerre d'Algérie qui a commencé aussi, qui n'est pas finie. Et donc, il y a vraiment cette conscience qu'il va falloir lâcher, comme on disait, sur les apparences pour garder l'essentiel, c'est-à-dire conserver un accès à des matières premières, conserver une puissance d'influence, un rayonnement, conserver un appui et conserver cette idée que la France est une grande puissance. On conserve l'Empire sous une autre forme. C'est un peu, pour reprendre l'expression, on la cite en intro d'un autre historien qui a bossé sur Haïti, l'Empire dans un grand velours. On déguise ça. Et donc, au moment où on fait les accords d'indépendance, on fait signer des accords de coopération. Et c'est Michel Debré, le premier ministre de l'époque, qui explique que l'un ne va pas sans l'autre. Il dit, on donne l'indépendance d'un côté, mais il faut signer les accords de coopération. Et ces accords de coopération, c'est quoi? Ça va être, au plan monétaire, c'est le maintien du franc CFA, qui est une monnaie qui a été mise en place au moment de la Seconde Guerre mondiale, une monnaie contrôlée par Paris dans ses colonies, et qui reste une monnaie contrôlée par la France, et qui connaîtra des réformes successives jusqu'à aujourd'hui où elle existe toujours. C'est pour ça qu'on a persistance d'une monnaie coloniale qui est beaucoup moins sous contrôle français, mais où on conserve certains aspects de domination évident. Une coopération au plan judiciaire, coopération au plan militaire, évidemment, c'est la mise... En fait, il y a pas d'armée nationale. Il y a des armées africaines qui étaient incluses dans l'armée française. Au moment de la communauté, on a fait une grande armée africaine toujours géré par la France. Et donc là, on a des armées nationales qui se mettent en place, mais qui sont encadrées par des officiers français, formées, encadrées par des officiers français.
France, il fallait qu'on fît des accords de défense. Ces pays-là n'avaient pas d'armée. Quand ils sont devenus indépendants, ils n'avaient pas d'armée. Ils n'avaient même pas, la vérité, la plupart d'entre eux, de gendarmerie. Et alors, on a fait des accords de défense qui étaient tout à fait dans leur intérêt. C'est moi qui ai négocié tous ces accords-là avec eux.
Et donc, la France commande les nouvelles armées, les forme, les équipe, et surtout s'assure d'avoir des armées peu nombreuses qui vont être en capacité à faire du maintien de l'ordre dans le pays, de la répression, mais sûrement pas être en capacité à peser dans un rapport de force vis-à-vis de l'ancienne puissance. Il y a la coopération au plan universitaire, au plan scolaire. On maintient. Et Michel Debré, donc premier ministre de l'époque, qui est vraiment proche de Gaulle, qui est un des rédacteurs de la Constitution de la 5e République, dit dans ses mémoires, il dit « Je m'efforce à cette époque de construire une toile d'araignée ». Il utilise cette expression de toile d'araignée pour parler de ces différents accords qui font signer et qui vont permettre à la France de conserver un lien extrêmement fort avec des États officiellement indépendants. Donc, d'un côté, on donne l'indépendance, et d'un autre côté, on tisse de manière institutionnelle tout un système de dépendance. Et puis, en parallèle, il y a une autre personnalité qui est évidemment centrale dans tout ça, c'est Jacques Faucard, qui, dès 1958, arrive et qui est extrêmement proche de De Gaulle et qui va être le monsieur Afrique de De Gaulle, puis de Pompidou, et à la fin de sa vie de Chirac. Jacques Faucard, donc, qui est la personne qui va veiller au maintien des intérêts français et décider, en lien étroit avec les services secrets français, puis avec des réseaux Faucard qui s'autonomiseront presque en partie de l'autorité des services secrets, de l'autorité officielle, mais veiller à éliminer les types qui dérangent, quoi, et à faire en sorte qu'on maintienne les intérêts français, et donc à agir dans l'ombre pour favoriser un coup d'État, favoriser le renversement d'un tel ou d'un tel. Et on peut prendre un cas au Togo en 1963, le nouveau président Sylvanus Olympio, qui porte un projet panafricaniste et qui veut se rapprocher de l'Allemagne, puisque le Togo est une ancienne colonie allemande, qui aille à la fin de la Première Guerre mondiale, comme le Cameroun, les colonies allemandes ont été partagées entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, et donc le Togo, le Togo francophone, ce qui est une partie rattachée au Nigeria, mais le Togo se retrouve mis sous mandat français. Et donc la France le gère comme une colonie. Et en 60, c'est quand même Sylvanus Olympio qui va devenir président, mais assez vite, il a des velléités de mise à distance de la France, quoi. Il dérange. Et il y a des intérêts économiques au Togo, mais il y a surtout l'idée que si un pays commence à s'autonomiser, il y a un risque de donner l'exemple. Donc il faut couper immédiatement ce qui pour ces gens-là passe pour de la gangrène, quoi, hein. Enfin, c'est des gens. Et donc Sylvanus Olympio est renversé en 1963, assassiné par un commando le travail d'historien montre que ils ont eu des liens extrêmement étroits avec l'ambassade de France et avec un commandant de gendarmerie sur place qui a favorisé en fait complètement le putsch, quoi. C'est toujours pas clair de finalement est-ce que c'est la France qui a voulu complètement, mais elle a même pas besoin de donner des ordres. Il y a toujours des gens qui sont prêts à en découdre, et là c'était des militaires togolais qui voulaient être réincorporés dans l'armée. Sylvanus Olympio refusait, il considérait qu'il y avait besoin plus d'instit que de militaires. Et en fait, ils l'ont renversé, assassiné. Et à partir de là, le Togo est devenu la dictature qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, assez vite, l'assassin de Sylvanus Olympio, 4 ans plus tard, a pris le pouvoir à son tour. Et c'est devenu, c'est la même famille qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans maintenant au Togo. On a, les réseaux Faucard, c'est cette réalité-là. Voilà. Donc, en gros, indépendance officielle, mise en place de tout un tissu d'accords de coopération qui vont maintenir cette interdépendance, et puis réseau Faucard, un peu la face cachée, l'ombre, qui vont permettre d'éliminer les voix discordantes et de maintenir les intérêts français et qui veillent à ça. Et ça se met en place, en gros, au tournant des années 50-60, mais ça se prépare dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ça se poursuit finalement pendant les décennies suivantes avec plein d'évolutions et de manière moins marquée peut-être, ce qui donne régulièrement l'impression que la France-Afrique appartient au passé, mais qui se poursuit sous d'autres formes.
Thomas Sankara en 1984.
D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes car nos ennemis sont nombreux, tout le monde n'acclame pas la révolution voltaïque et tout le monde n'a pas entré l'âge de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend. Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, une aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela.
En fait, il y a un certain nombre de mythes. L'histoire franco-africaine est pleine de mythes. C'était peut-être pas une volonté de départ, mais ça a été le résultat. On s'est rendu compte qu'on déboulonnait un certain nombre de mythes dans ce livre. Alors, celui dont je vais parler, on n'est pas les seuls et on n'est pas les premiers à le faire, évidemment. Effectivement, il y a ce mythe de la décolonisation pacifique. Il y a cette idée que la France aurait donné l'indépendance, une sorte de grandeur d'âme du général de Gaulle et d'autres à l'époque. Alors, les moins naïfs ont vite en tête qu'il y a quand même la guerre d'Algérie en parallèle qui pousse aux fesses derrière, hein, parce que en fait la France s'en sort pas, n'arrive pas à réprimer malgré une répression terrible, n'arrive pas à mettre fin à la poussée indépendantiste en Algérie. Mais en réalité, cette poussée indépendantiste, elle est à plein d'autres endroits et depuis les années 40. À la fin des années 40, vous avez à Madagascar une insurrection massive qui est réprimée dans le sang, mais c'est terrifiant. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont tuées par l'armée française et ça, c'est complètement absent de nos livres d'histoire. Vous avez en Côte d'Ivoire des répressions populaires, des mouvements populaires aussi qui sont réprimés avec une violence inouïe. Et là, pareil, on l'efface. Vous avez simultanément à la guerre d'Algérie, une guerre d'indépendance au Cameroun, où la France va intervenir massivement, mais sans envoyer des appelés. En fait, elle n'envoie qu'une armée de métier, une partie de son armée de métier qui existe déjà à l'époque. Et donc, il y a beaucoup moins de témoignages qui remontent en métropole de des horreurs qui sont commises là-bas. C'est des gens qui sont envoyés pour faire le boulot et, raser des villages, déplacer des populations, commettre des crimes de masse. Et donc, cette guerre d'indépendance, elle a marqué le Cameroun. C'est une guerre d'indépendance perdue par le Cameroun, par l'Union des Populations du Cameroun, l'UPC, qui était un mouvement révolutionnaire et indépendantiste local. Et en fait, toute cette histoire-là est effacée. Et on nous bassine, depuis qu'on est gamin, sur l'idée que la décolonisation en Afrique subsaharienne aurait été pacifique. Qu'on aurait eu la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, mais que partout ailleurs, il n'y avait pas de problème. En réalité, il y avait une poussée indépendantiste massive, une répression inouïe, et qu'on efface, et des crimes, en fait, coloniaux, aujourd'hui, n'apparaissent toujours pas dans les livres d'histoire. Mais enfin, les crimes coloniaux de la période de conquête coloniale, les crimes coloniaux du maintien de la période coloniale, et puis les crimes coloniaux de cette période de transition, un peu, qui s'est ouverte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui va déboucher sur des indépendances factices avec tout un système de maintien d'une interdépendance et ensuite un verrouillage autoritaire avec la mise en place de dictatures favorables aux intérêts français, quoi. Et il y a vraiment une chape de plomb qui s'est abattue littéralement sur les personnes à l'époque, mais qui ensuite est présente dans nos livres d'histoire et dans les discours politiques encore aujourd'hui. En 2010, on a célébré en France le cinquantenaire des indépendances africaines, c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République à l'époque. Il avait nommé Jacques Toubon, qui est une personnalité bien France-africaine dans son parcours, que j'ai vu, entendu, expliquer, voilà, cette décolonisation pacifique. C'est-à-dire qu'au plus, enfin, régulièrement dans des discours officiels, on a ce mythe qui est entretenu, quoi. Et à un moment, il va falloir qu'on ait un peu le courage de regarder en face et de dire non, en fait, on a massacré des gens pour essayer de maintenir notre influence et maintenir notre empire sous une forme différente.
Le travail d'enregistrement de Thomas est dû au cerveau non disponible à qui il a été emprunté. Nous continuerons cette année de Billets d'Afrique au fil de l'actualité et à travers l'explication et la démonstration des modalités concrètes du fonctionnement de la France-Afrique, les entreprises, la défense, l'armée, le pillage des ressources naturelles, etc. Bonne journée à toutes et à tous, bonne lutte au quotidien pour ceux qui aspirent à plus d'équité dans ce monde et au mois prochain. Et pour finir, c'est Kevin au Togo qui a choisi la chanson de Razli.
Les chansons dont tu cherches là, c'est les chansons politiques là, non. Les chansons de politique, mais c'est des vieux. Je suis en train de chercher les nouveaux parce que ils ont fait des choses d'une manière que les gens n'arrivent plus à chanter, à appeler, à dénoncer les choses au pays. Tu fais sortir une chanson comme ça, on t'enferme. Hein. Donc, il n'y a pas d'opposition au Togo, hein. Il n'y a plus d'opposition. Donc, tu ne peux pas rester sur le terrain et puis concurrencer ou bien chanter ou bien faire des choses sur eux. Hein. C'est des vieux chansons qui sont, donc je suis en train de chercher aussi.
Hey, Togo, mon beau pays, Yako. Hey, Allah. Mon Togo, lord de l'humanité, de richesse inestimable. Mais quand tu viens, que constates-tu? Yako. Et Anéhoye, deux fois capitale du Togo, mon beau pays. Mais quand tu viens, que constates-tu de positif? Si c'est pas la misère, si c'est pas la galère, c'est quoi encore? Hey!
Afin, et Wafin, et Wafin Tolo.
Même souffrance dans la région des savanes.
Afin, et Wafin, et Wafin Tolo.
Même pauvreté dans la région de la Kara. Même misère dans la région centrale. Après plus de 50 ans d'exploitation de phosphate dans le veau, on a des élèves qui sont encore sous les paillassons. C'est drané. Après 50 ans d'exploitation de phosphate dans le veau, de Koumé à Koumapé, à Haoté, oh c'est pire. Ikoti.
Afin, et Wafin Tolo.
Pareil si constance dans la région des plateaux.
Afin, et Wafin Tolo.
Aucune région n'est épargnée par la misère.
Et Wanou Zizi, et Wanou Zizi.
Nanou Makura me fie la tien.
Et Wanou Zizi, et Wanou Zizi, et Wanou Zizi.
Marcus César, Saint-Classou, Pounpounao.
Bara! Manon vie, manon a wot, chiji va wot, 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 wot. Bode si Makura, ton tu me vo, ho, tu, tu me lio. Nka mi be mian yo, nka mi be mian wo. O so si ma gana be no so do mo so do a to chie. Do to mo vio be kare, do to mo vio be kare. Mi ji kane mi. Rasli, Chino.
Or que c'est cette cimenterie qui alimente toute la sous-région. Et Wafin, pour voir ce cantonnaire, tu as failli à ton devoir. Reconnais-le.
Je dis c'est triste. Oh c'est triste. Oh c'est trop triste.
Opposition politique assume aussi tes erreurs.
Et Wafin. Et Wafin.
Peuple, sortons. Votons pour sortir du retard et de l'obscurité.
Et Wafin. Et Wafin.
Y'a trop d'otages à l'étage.
Et Wafin nous blanoui. Et Wafin nous blanoui. Et Wafin nous blanoui l'eau.
Tomde et Odongoyo, ça va là-bas.
Et nous zizi. Et Wafin nous zizi. Et Wafin nous zizi.
Kouméa, est-ce que tu tiens le coup?
C'est triste. Oh c'est triste. Oh c'est trop triste.
Allez Harry, vous êtes à l'aise?
Vampire on the beat.
Diana Konga, elle est là. Yaman, yeah, move in your life.